10h50 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rhett. Bonjour Adèle.
Bonjour à tous. Après Platon et le Phèdre, on commence aujourd'hui une semaine spéciale dans le journal des Nouveaux Chemins, puisque nous sommes en compagnie du philosophe allemand Peter Sloterdijk, qui est l'une des grandes figures de la philosophie contemporaine, un des rares philosophes actuels qui écrivent autant et qui soient traduits et lus dans le monde entier. De Peter Sloterdijk, on a souvent lu le nom dans les journaux, dans les librairies. On a pu entendre son nom de la bouche d'un professeur de philosophie, ou on a pu, plus rarement peut-être, en lire des extraits, quelques pages. Mais on a moins souvent eu la chance de se plonger dans son œuvre, dans les milliers de pages dont il est l'auteur. Et c'est ce que nous allons faire cette semaine, chaque jour, en votre compagnie donc, Peter Sloterdijk. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cette traversée, cette déambulation au sein de vos écrits, qui sont nombreux, je le rappelle pour n'en citer que quelques-uns, vous avez publié une critique de la raison cynique en 1983, Règles pour le parc humain en 1999, qui avait déclenché une polémique assez vive, notamment avec Jürgen Habermas. Et plus près de nous, et c'est surtout de cela dont on va parler cette semaine, vous avez publié une trilogie, intitulée Sphère, au pluriel, dans laquelle vous parlez de bulles, de globes et d'écume. Alors, bulle, globe et écume, ça pourrait être les titres de recueils de poèmes, mais ce sont les titres de chacun des volumes de cette trilogie, dont le second, Globe, donc, vient de paraître cette semaine en France, chez Marensel Éditeur, dans une très bonne traduction d'Olivier Manoni. Partons de ce titre que vous donnez à votre trilogie, Peter Sloterdijk, du motif de la sphère, donc motif qui est récurrent dans les trois tomes de cette trilogie. Si on s'arrête un instant sur ce terme de sphère, on voit que c'est un terme qui est très plastique, très malléable, très élastique. C'est un mot qui est à la fois rond et aérien, à la fois terrestre, si on pense au globe justement, et cosmique. C'est un terme qui renvoie à la fois à quelque chose de solide et de délicat. On pense à la fois au boulet du prisonnier et à la bulle, justement. Alors, est-ce que c'est cette plasticité du terme même de sphère qui vous a séduit dans ce concept, et qui a fait que vous l'avez choisi comme prisme, comme motif pour penser le monde, Peter Sloterdijk?
Il est nécessaire de penser la forme du monde sous le symbole ou sous le signe de la rondeur. C'est une découverte avec laquelle l'époque de la grande pensée commence. En Asie comme au Moyen-Orient et dans les grandes cultures inaugurales de la civilisation européenne qui sont la culture grecque et romaine. Tous les penseurs de cette époque, je parle du premier millénaire avant le tournant chrétien, ce que tous les penseurs de cette époque ont en commun, c'est cette intuition profonde qu'il faut concevoir la totalité des choses sous le signe de la sphéricité. Cela tient au fait que chez tous les penseurs, surtout chez Platon, on trouve les premières traces d'une nouvelle forme de penser l'intégrité humaine à partir de l'intégrité du cosmos. Ce sont les Grecs qui ont pour la première fois constaté qu'il est tout à fait nécessaire de concevoir la totalité des choses sous le symbole de l'oikos, c'est-à-dire de la maison. Et toute la rationalité profonde et toute l'utopie, toute la santé intellectuelle que les Grecs ont formulée sous une forme dont nous héritons, c'est cette promesse inouïe de transformer la totalité de l'être en un espace habitable. La maison est normalement une chose carrée. Et les Grecs ont posé ce problème, comment penser le carré en rond. Yeah. Donc, cette fameuse quadrature du cercle, yeah, à la base du mouvement de la pensée philosophique. Mais pour comprendre cela, il faut savoir que Platon n'est pas pour rien le fondateur de la philosophie telle que nous la connaissons. On ne parle pas des soi-disant présocratiques qui représentent un groupe qu'on a inventé a posteriori, dans la rétrospective, mais en tant que philosophe, c'est vraiment Platon dont il faut parler en première place, parce que chez lui, il est évident que la philosophie est la fille de la défaite de la police. Au moment où la cité tombe en ruine, il faut reconstruire la totalité politique sous la forme de la totalité cosmique. Donc la philosophie est un mouvement de déménagement. On quitte la ville et on déménage dans le cosmos.
Mais est-ce que la ville d'un côté et le cosmos de l'autre sont deux formes de sphères, de boules, de rondeurs différentes ? Ou est-ce que l'une s'intègre dans l'autre ?
Oui, mais le cosmos est le conteneur élargi dans lequel on peut se sauver même au moment où la cité tombe en ruine. C'est ça la manœuvre constitutive de la pensée philosophique. Pour ainsi dire, on découvre un système immunitaire d'ordre supérieur. La cité, avec ses murs, avec ses obligations, avec ses convictions profondes des citoyens, représentait un système immunitaire politique tout à fait cohérent. Et tout est système immunitaire qui permet aux citoyens de mourir sans mourir.
Voilà, et du coup, la mémoire de la cité rend d'une certaine façon immortelle l'homme, et on verra dans quel sens, peut-être on verra ça demain, la croyance en Dieu, elle aussi, postule finalement l'existence d'une mémoire, d'archives que Dieu garderait, qui pourrait permettre ensuite, du coup, de rendre justice après la mort. Merci beaucoup, Peter Sloterdijk. On se retrouve demain pour la suite de ces entretiens.
Voilà, merci à tous. Les nouveaux chemins de la connaissance, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, comme tous les jours, de 10h à 11h. On se retrouve aussi, évidemment, sur Internet, à la page des nouveaux chemins de la connaissance, où vous attendent bibliographies et téléchargements. Demain, c'est du thé et tête que nous vous parlerons, un drôle de dialogue, où Socrate ou Platon, invente littéralement le mythe du philosophe perdu dans les nuées ou dans la tour d'ivoire de sa pensée, tout en expliquant comment lui, le fils d'une accoucheuse, pratique le même métier que sa mère, à la différence près qu'il accouche les âmes et non les corps. À demain donc, France Culture, il est 10h59, dans un instant, question d'époque.